Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à tous, midi 30, ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée.
Cette décision, elle rétablit le droit et elle fait place à la raison. Nous attendons de la part du gouvernement maintenant une tolérance pour ce dimanche.
La conférence des évêques de France satisfaite de la décision du Conseil d'État qui retoque le décret qui limite à 30 les participants à une cérémonie religieuse. Pour les magistrats, le gouvernement doit prendre en compte la taille du bâtiment. Nous serons à la sortie d'une messe dans le 19e arrondissement à Paris. Premier dimanche avec des règles assouplies, des magasins autorisés à ouvrir jusqu'à Noël tous les dimanches pour rattraper leur retard. Nous serons à Nantes et beaucoup de monde qui profite aussi de la possibilité de se promener dans la limite de 20 km et on en profite à fond à Marseille. Autre réouverture à venir, celle des salles de théâtre, ce sera le 15 décembre. On verra à quelles conditions avec mon invité Éric-Emmanuel Schmitt. 62 policiers et gendarmes blessés, 81 personnes interpellées. Bilan après les manifestations contre la loi sécurité globale avec une forte mobilisation hier à travers toute la France. Et puis jusqu'à ce soir, les banques alimentaires font appel à votre générosité pour leur collecte nationale alors que près de 8 millions de personnes en France ont besoin de cette aide alimentaire pour vivre. Encore plus cette année avec la crise sanitaire. Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, sera mon invité. La météo, ce sera beau, sec et donc froid. C'est ce que nous dira Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le Conseil d'État demande donc au gouvernement de revoir sa copie pour les cérémonies religieuses. Il donne 3 jours pour modifier le décret qui limitait à 30 personnes le nombre de fidèles pour un office. Les magistrats veulent que la capacité d'accueil soit adaptée à la taille du bâtiment. Une décision qui intervient alors que la conférence des évêques de France a rendez-vous avec Jean Castex ce soir à 18h. Une décision qui réjouit le porte-parole de cette conférence, Vincent Némon.
Cette décision, elle rétablit le droit et elle fait place à la raison. Le Conseil d'État demande au Premier ministre d'appliquer cette jauge de 30% de la capacité globale d'accueil. Elle correspond à ce que nous demandions. Tous les Français connaissent les églises en France et on voit bien qu'il y a de toutes les tailles. Donc c'est beaucoup plus logique d'être dans cette jauge en pourcentage. Dans toutes les églises de France aujourd'hui, les prêtres ont considéré avec les fidèles qu'il fallait appliquer la jauge de 30%. C'est ce qui a été fait. Nous attendons évidemment de la part du gouvernement maintenant, vu cette décision, encore une fois, de l'intelligence et donc une tolérance pour ce dimanche.
Le porte-parole de la Conférence des évêques de France avec Caroline Baudry. Une décision accueillie aussi avec soulagement par les fidèles à qui vous avez appris la nouvelle à la sortie de la messe de la paroisse Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette à Paris, Mathieu Bock.
Oui, pour tenter de respecter cette limite de 30, l'église avait ouvert une deuxième chapelle juste à côté. Mais malgré ça, la jauge était dépassée. La décision du Conseil d'État est donc un retour à la raison pour Adeline, une fidèle venue en famille à la messe ce matin.
Moi, j'ai eu la sensation qu'on était un peu plus nombreux, mais l'espace était assez grand pour tous nous accueillir. Donc c'est vrai que ça semble pas tout à fait adapté. Effectivement, ce nombre de 30, ça dépend de la capacité de l'église, en fait, effectivement. Donc oui, j'espère que ça sera revu et qu'on puisse tous profiter de ces beaux moments qui s'annoncent.
La fin de cette limite est également un soulagement pour Evelyne, qui voyait ça comme une décision arbitraire, dit-elle.
On n'a pas compris, en fait, parce qu'en mai, quand on a recommencé, on avait respecté les distances, les 4 mètres carrés qu'on nous avait imposés, un rang sur deux, une chaise sur quatre, enfin, et tout s'était très bien passé. Donc là, on a pris ça un peu comme une mesure de rétorsion, en fait, dont on ne sait pas pourquoi on a pris cette mesure. Donc on s'est senti pénalisé, voilà, c'est tout. Mais on a eu la messe quand même, et c'est déjà ça. Donc on a prié pour ceux qui ne veulent pas qu'on fasse la messe, justement.
Tous espèrent désormais être aussi nombreux qu'avant quand l'église rouvrira ses portes à partir de demain.
Mathieu Bock, et puis depuis hier, les commerces non essentiels ont donc rouvert. Le gouvernement a même autorisé qu'ils puissent être ouverts tous les dimanches jusqu'aux fêtes de Noël pour rattraper leur retard. C'est le cas à Nantes, tous les clients sont bien au rendez-vous, Charles Guyard.
Oui, et une coupe de cheveux le dimanche matin, ce n'est pas très courant. Et pourtant, Guillaume n'a pas hésité. Il avait même spécialement réglé son réveil pour cela aujourd'hui.
On s'est levé tôt, ouais. Exprès. J'y ai prévu de venir aujourd'hui, oui.
Et Guillaume est loin d'être le seul. La preuve, sur le trottoir, ils sont 4 ou 5 à patienter devant le salon Hairstyle. C'est dans le centre-ville de Nantes. Chacun a récupéré un petit papier avec un numéro inscrit dessus et attend d'être appelé pour passer sous la tondeuse de Walid, qui restera ouvert 7 jours sur 7 tout le mois de décembre. Une obligation pour le patron.
On travaille tous les dimanches. Parce qu'on est fermé longtemps, on n'a pas travaillé. Pendant 2 mois, les premiers confinements, la deuxième, on galère avec les charges et tout, on est obligé pour travailler. Hein. On a trop perdu, plus que 50%. Hein. par rapport à l'année dernière.
Et pour tenir la cadence, Walid assurera un roulement avec son employé. Chacun prendra alors un ou deux jours de repos dans la semaine, mais pas le dimanche, hein, où la proximité immédiate avec le marché Talensac garantit une clientèle plutôt nombreuse. Et après une année 2020 très compliquée, impossible de rester fermé ce jour-là, quitte donc à devoir payer davantage à son salarié.
Bien sûr, il gagne plus que l'habitude, c'est normal.
Et ce matin, à raison de deux clients maximum en même temps, plus d'une douzaine ont ainsi pu se refaire coiffer.
Charles Guyard, premier week-end donc de réouverture pour ces petits commerces. Qui aurait dû intervenir avant, selon le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, si on prenait en compte en France chaque territoire et sa spécificité?
C'est le gouvernement qui a tardé. On a un État qui veut décider pour tout le monde, depuis Paris, dans un tout petit cercle. C'est le défaut de la Ve République. Il faut passer de cette décision centralisée à la microchirurgie. Et donc on doit pouvoir trouver, pour chaque secteur, le protocole qui permet de réouvrir dans des conditions sanitaires. Et j'ajoute un point, si vous voulez. Dans tous ces débats, nous, on a un face-à-face avec le gouvernement. On ne parle pas aux médecins, aux scientifiques. On a besoin de comprendre. On est des gens rationnels. On ne peut pas être infantilisé. On ne peut pas nous dire, non, on ferme, terminé, rien à voir, c'est le gouvernement qui décide. Sans explication, ça n'est pas accepté.
Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Parmi les plaisirs qu'on a retrouvés depuis hier, il y a celui de pouvoir déambuler dans les librairies pour choisir un livre. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
Écrivain, auteur de pièces de théâtre, directeur artistique du Théâtre de la Rive Gauche à Paris. J'imagine que vous êtes un écrivain heureux de savoir que ça y est, depuis hier, vos lecteurs peuvent retrouver vos livres en librairie.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que, étant membre du Goncourt, nous donnons demain le prix Goncourt pour fêter la réouverture des librairies et engager les lecteurs à se précipiter sur des bons livres.
C'est aussi un soulagement pour vous, l'annonce de cette réouverture des théâtres, cette fois le 15 décembre, avec un protocole sanitaire strict. Vous allez vous-même, je crois, remonter sur scène dans le monologue Madame Pilinska et le secret de Chopin, accompagné par un pianiste.
Oui. Ah ben ça, c'est plus qu'un soulagement. Imaginez que les théâtres ont été fermés pendant 6 mois. On avait pu rouvrir en septembre. Moi, j'avais pu jouer en septembre. On avait commencé aussi une autre pièce qui va reprendre, qui est Le Petit Coiffeur de Jean-Philippe Daguerre. Les acteurs avaient répété. Le personnel du théâtre était rompu au protocole sanitaire. Nous, on avait même équipé le théâtre Rive Gauche de purificateurs d'air de type hospitalier. Tout était très au point. On n'a jamais vu, d'après des études, quelqu'un attraper cette saloperie de Covid dans une salle de spectacle si on respecte effectivement les mesures sanitaires. Et tout ça s'est arrêté tragiquement. Il fallait sans doute que ça s'arrête, parce qu'il fallait que les flux cessent. Mais voilà, nous sommes prêts, archi prêts. Non seulement les spectacles sont prêts, mais le personnel des théâtres est prêt. Les théâtres ont limité leur présentation, c'est-à-dire il n'y a plus un 19h et un 21h, mais généralement maintenant un spectacle à 19h30 dans à peu près tous les théâtres, puisqu'en plus le fait d'avoir son billet de théâtre permettra de rentrer plus tard. On pourra justifier de cela. Il faut que les spectacles finissent à 21h.
Et vous dites donc au public, Éric-Emmanuel Schmitt, revenez au théâtre, on a besoin de vous.
Mais je ne les supplie pas, je vois ce qui se passe depuis qu'on a annoncé que...
Les réservations sont là
que... Mais oui, les gens appellent, les gens sont heureux. Moi, quand je vais voir défiler les premiers spectateurs dans la salle, je vais retrouver les sourires que j'avais vus début septembre, quand on avait enfin pu réouvrir. C'est de la joie profonde d'aller vivre une émotion unique, quelque chose qui n'existe qu'à un instant, avec ses proches, et puis marquer le temps. Tout d'un coup, je pense qu'on s'est rendu compte que le théâtre, le cinéma, les salles de musique, c'était des choses essentiel, surtout pendant le moment des fêtes. Autrement, tous les jours se ressemblent, toutes les années se ressemblent. Il faut pouvoir se nourrir d'émotions, de réflexions, ramener quelque chose chez soi, se tricoter des souvenirs uniques.
On entend votre plaidoyer vibrant, on entend aussi ce Goncourt demain avec les livres, effectivement relancés dans les librairies. On entend une période difficile quand même, Éric-Emmanuel Schmitt. Comment vous la vivez? Parce que souvent vous êtes les premiers lieux qui referment.
Écoutez, Je dois avouer que quand même que le gouvernement, enfin le ministère de la Culture a accompagné pas mal le désarroi des salles de théâtre. Évidemment, pas jamais dans une mesure suffisante, mais beaucoup plus que par rapport dans d'autres pays étrangers. En fait, il faut essayer de tirer le positif de tout ça. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on fait ce métier pas pour l'argent, mais qu'on fait ce métier pour des raisons essentielles, parce qu'on a besoin d'aller à la rencontre des autres, d'échanger des idées, des émotions, des images, des sons. Je pense que chacun est revenu aux fondamentaux. Alors malheureusement, il va y avoir de la casse, c'est-à-dire que certaines salles de spectacle vont sans doute fermer, certains spectacles qui étaient prêts ne verront jamais le jour. Il va y avoir une casse absolument terrible, mais mettons-nous du côté de la reconstruction et mettons-nous du côté du plaisir.
Merci beaucoup Éric-Emmanuel Schmitt, et on entend cette envie et votre... plaisir déjà à retrouver les planches effectivement du théâtre Rive Gauche à partir du 15 décembre. Merci à vous de nous avoir accompagnés ce midi sur Europe 1. Une autre liberté retrouvée depuis hier, c'est la possibilité de se promener pendant 3 heures dans un périmètre de 20 km autour de chez soi. Et Stéphane Frangy, avec un temps idéal, les Marseillais que vous avez rencontrés en profitent à fond.
Oui, laissez-moi vous dire qu'on a sorti les vélos du garage, enfilé les chaussures de running et en grand nombre. Direction donc le bord de mer, pourquoi s'en priver? Et au pas de course, le front perlé de sueur pour Julien.
Ça va, merci. Ce matin, c'est le petit footing de récupération. Il me reste plus que 2 km et je vais les finir. Puis voilà, on profite du soleil, il y a du monde, ça fait plaisir de voir des gens. On voit que les gens ont le plaisir, même avec le masque, on voit qu'il y a un rictus de s'en sentir un peu moins enfermé en fait. On nous lâche un peu la laisse, donc c'est cool. On prend notre liberté qu'on avait avant et petit à petit, je pense qu'on va récupérer tout ça. Et puis je pense que les gens, du coup, se rendront compte de la liberté qu'on a et elle est super importante.
Et vous vous demandez certainement si certains ont osé pousser le plaisir jusqu'à une petite baignade en mer. Eh bien oui, bien sûr, allons-y avec Christian, mais en douceur, car l'eau reste assez fraîche.
14 degrés, ça va être génial, quoi. Ça va bien nous réveiller. Oh, on va pas rester 3 heures quand même, hein, parce que là, on est mal. Hein. Oh, on tient 20 minutes, 25 minutes. C'est vrai que ça fait du bien. C'est un moment de liberté et de bien-être inégalé, quoi. Hein. C'est incroyable, incroyable.
Voilà, énormément de monde aussi au skatepark, le bol de Borély qui déborde d'amateurs de sport de glisse. Ce dimanche sera sportif à Marseille, ça c'est certain.
Voilà, bien noté Stéphane Frangy qui en profite lui aussi à fond. Alors que les Français se déconfient, on le voit progressivement, ils attendent désormais de savoir quand ils pourront se faire vacciner. Début de réponse demain avec la Haute Autorité de Santé qui va donner ses recommandations sur ceux qui doivent être vaccinés en priorité. Alors que la stratégie vaccinale commence à se préciser à Roger.
Oui, la première phase va démarrer en janvier avec le vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech. Mais comme à ce moment-là, les doses seront délivrées au compte-gouttes, le journal du dimanche évoque 1,5 million de doses. Tous les soignants et les personnes vulnérables ne pourront être vaccinés tout de suite puisqu'ils sont 30 millions. Donc, priorité aux résidents des EHPAD, ils sont un peu plus de 700 000 et sont particulièrement fragiles. Et puis aux soignants, mais pas tous, les plus exposés, détaille Jacques Battistoni, président du syndicat généraliste MG France.
Les personnes qui travaillent dans les services de réanimation, les personnes qui travaillent dans les services d'infectiologie sont évidemment les premiers concernés. Et donc là, ça va être la médecine du travail de l'hôpital qui va se charger de ça. Et puis dans les EHPAD, ça va être éventuellement les médecins généralistes, mais aussi les personnels infirmiers qui travaillent déjà dans ces EHPAD.
Et comme vous le savez, le vaccin Pfizer-BioNTech doit être conservé entre moins 70 et moins 80 degrés. La France est en train de s'équiper de congélateurs spécifiques qui devraient être répartis dans une centaine d'hôpitaux à travers la France. Enfin, c'est à partir de février que commencera la deuxième phase, ciblée cette fois l'ensemble des personnes vulnérables, les plus de 65 ans, ceux qui ont une maladie cardiovasculaire ou les femmes enceintes au troisième trimestre de leur grossesse.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
62 policiers et gendarmes blessés à travers toute la France et 81 personnes interpellées hier lors des manifestations contre la loi sécurité globale. Manifestation avec une forte mobilisation et des rangs grossiers aussi par ceux qui étaient venus dénoncer des violences au sein de la police après la violente agression du producteur Michel Zecler. 4 policiers sont d'ailleurs toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur cette agression et le procureur de la République de Paris tiendra une conférence de presse en fin d'après-midi sur les suites de l'enquête qui a été confiée à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, dont le rôle est de plus en plus questionné. Manuel Valls, qui était invité hier soir de Wendy Bouchard sur Europe 1, s'est dit favorable à la présence d'un représentant du défenseur des droits dans le cadre des procédures de la police des polices. Écoutez la réaction de Thierry Clerc, secrétaire général adjoint de l'UNSA Police.
Le défenseur des droits, je dirais, travaille en parallèle aujourd'hui de l'IGPN. Ses avis sont rendus en parallèle des décisions. Quelquefois, ça sème le trouble. Donc, c'est une question qui peut se poser lorsqu'il y a des manquements. Et on l'a toujours dit, ils doivent être sanctionnés. Mais aussi, il faut prendre en compte que les situations sont souvent complexes à appréhender, que les collègues travaillent dans des conditions qui sont difficiles. Oui. Et que pour appréhender ces situations, effectivement, il faut analyser concrètement, je dirais, les pratiques qui ont été mises en place, les habitudes de travail aussi, mais les fonctionnements internes, les techniques d'intervention. Le tout, c'est que les choses ne se fassent, je dirais, de façon totalement objective, parce qu'on n'a rien à cacher dans la police, on doit jouer la transparence.
Thierry Clerc, secrétaire général adjoint de l'UNSA Police, invité de la matinale de Pierre de Villeneuve. L'actualité sportive avec le retour attendu et réussi cette nuit à Los Angeles du célèbre boxeur Mike Tyson à 54 ans. Il est remonté sur le ring et on a pu voir, Axel May, qu'il n'avait rien perdu de sa superbe.
The baddest man on the planet.
Dans une salle sans public en raison de la situation sanitaire, avec du faux son d'ambiance, le speaker annonce l'arrivée sur le ring de la légende, de l'homme le plus méchant du monde, de l'ancien champion Iron Mike Tyson. Short noir, moitié du visage tatoué et physique de boxeur retrouvé. 97 kilos sur la balance alors qu'il en a pesé plus de 170. En face, un autre quinquagénaire sur le retour, Roy Jones Jr., boxeur qui a lui aussi été champion du monde. Chacun des adversaires aurait touché $1 million pour cette exhibition, même s'il réfute ce terme. Avec des règles précises, 8 rounds de 2 minutes, interdiction de mettre un KO et pas de vainqueur final. Les commentateurs américains se réjouissent d'assister à un match qui ressemble à quelque chose. Tyson a encore un sacré punch, le spectacle est au rendez-vous, même si le poids des ans se fait sentir. La chaîne internet qui a diffusé le match en pay-per-view, en vidéo à la demande, a engrangé des records qui n'ont pas encore été communiqués, argent qui a vocation à aller à des œuvres caritatives. Quant à Iron Mike, qui avait cette nuit mis de côté ses démons, respectueux par exemple de son adversaire, il annonce qu'il va de nouveau monter sur un ring et ce sera peut-être à Saint-Tropez ou à Monaco.
Ah ben voilà, un mot de rugby avec la France qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'automne en battant l'Italie hier soir au Stade de France, 36-5. La musique emblématique de Star Wars, la marche impériale de John Williams qui s'imposait pour vous annoncer le décès de celui qui incarnait à l'écran Dark Vador, l'acteur britannique Dave Prowse qui vient de mourir à l'âge de 85 ans, que la force soit avec lui toujours, voilà ce qu'a dit son agent à la BBC. Et puis, c'est un grand nom de la presse française qui nous a quittés à l'âge de 83 ans, Jean-Louis Servan-Schreiber. Il avait créé l'Expansion, Psychologie Magazine. Il fut aussi chroniqueur à Europe 1. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche et donc ce sera beau, sec et froid, Valérie Darmon.
C'est tout à fait ça, et le soleil qui s'impose partout depuis ce matin. Seuls quelques bancs de nuages bas persistent localement, en particulier sur les Hauts-de-France, au sud de la plaine d'Alsace, vers le Val-de-Saône et le Lyonnais. Mais il fait froid, 4 à 9 degrés du nord au centre et du Grand Est à Auvergne et à Rhône-Alpes, 10 à 14 sur le nord-ouest, 15 à 18 dans le sud-ouest, 13 à 19 sur les régions méditerranéennes. Les hautes pressions et le soleil ne suffisent pas à réchauffer l'atmosphère, d'autant qu'il y a un petit vent d'est qui souffle et qui rajoute à la sensation de froid. Un mot de demain, on a une perturbation venant de la mer du Nord qui descend sur notre pays, du Danemark vers le nord de l'Italie, et elle sera responsable de la première offensive hivernale de la saison. Par conséquent, en fin de soirée de ce lundi, les premiers flocons sont attendus en Champagne, dans les Ardennes, rapidement suivis par un redoux. C'est normal, l'hiver météorologique, c'est le 1er décembre.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Et jusqu'à ce soir, les banques alimentaires ont besoin de vous. Elles font appel à votre générosité pour leur collecte annuelle. Collecte d'autant plus cruciale cette année que la demande n'a jamais été aussi forte. Elle a bondi de 20% avec la crise du Covid. Autre chiffre qui parle de lui-même, 8 millions de personnes en France ont besoin de cette aide alimentaire pour vivre. Bonjour Pascal Brice.
Bonjour.
Président de la FNARS, la Fédération des acteurs de solidarité. Ce constat, c'est aussi celui que vous font remonter du terrain toutes les associations que vous regroupez au sein de la fédération que vous présidez, que de plus en plus de gens en France, on va le dire clairement, ne mangent pas à leur faim.
Oui. C'est une réalité que nous constatons dans nos associations partout dans le pays. Vous avez aujourd'hui un plus grand nombre de personnes qui ont recours à cette distribution alimentaire. Moi, j'appelle aussi à la solidarité encore aujourd'hui à travers la Fédération des banques alimentaires pour que chacune et chacun prenne sa part. Nous avons de plus en plus de personnes, c'est le fruit, la conséquence de cette crise économique et sociale, de la crise sanitaire, de plus en plus de monde dans les distributions alimentaires.
Alors, il y a eu des aides massives de l'État, Pascal Brice, le chômage partiel, le doublement encore annoncé hier des aides pour les entreprises qui restent fermées, ça ne suffit pas ?
C'est important et je crois qu'il faut évidemment souligner, saluer cette mobilisation inédite des pouvoirs publics en temps de crise à travers, vous l'avez dit, le chômage partiel, à travers des aides exceptionnelles pour les jeunes qui ont été à nouveau complétées. Mais il faut d'abord, et nous l'avons dit au gouvernement, veiller à être très attentif à identifier ces nouveaux publics, de manière à ce que nous puissions à chaque fois, et la Fédération des acteurs de la solidarité est disponible pour y travailler avec les pouvoirs publics, pour identifier et adapter les dispositifs. Il faut aussi veiller à être dans une approche que je qualifierais de plus structurelle, notamment pour les jeunes en précarité. Il y a là la nécessité d'aller au-delà des aides ponctuelles.
C'est-à-dire, je sais que vous militez depuis longtemps à la Fédération des acteurs de solidarité pour un RSA pour les moins de 25 ans. C'est ça que vous demandez au gouvernement ?
Oui, ce serait évidemment la solution la plus opérationnelle que de faire en sorte que les jeunes en précarité, en grande précarité, aient accès au RSA. Parce que vous savez, nos préoccupations, c'est que les personnes en précarité puissent avoir accès à ces aides. Elles sont dans des maquis de bureaucratie, elles sont aux marges de la société, elles sont dans la difficulté, c'est compliqué d'arriver à comprendre toutes ces procédures. Donc l'extension du RSA aux jeunes, oui, sinon d'autres solutions peuvent être envisagées, la généralisation de la garantie jeune. Nous souhaitons effectivement que, tout en saluant les aides décidées par le gouvernement, on puisse aller plus profondément dans l'accompagnement, notamment pour les jeunes et pour l'ensemble des personnes en précarité.
On entend vous parler beaucoup des jeunes dans les nouveaux publics que vous avez vus aussi sur le terrain. Il peut y avoir des auto-entrepreneurs, donc des gens qui travaillaient en fait et qui avaient créé leur propre entreprise.
Oui, vous savez là, c'est une raison pour laquelle nous sommes dans un moment de fragilité sociale réelle, même si encore une fois, ce qu'on appelle les filets de sécurité sont très importants. Mais vous avez une conjonction d'une évolution du salariat notamment, qui fait que vous avez de plus en plus de gens qui sont dans ces statuts, par exemple, d'auto-entrepreneurs ou de salariés précaires, qui étaient un peu à la limite et qui, avec cette crise économique, basculent dans la précarité.
Alors, vous dites aussi... Puisque vous êtes président des acteurs de la solidarité, de la Fédération des acteurs de solidarité, Pascal Brice, est-ce que cette solidarité, elle est au rendez-vous ? Vous disiez cette semaine qu'il y a une perte de lien social avec cette crise, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je crois que chacune et chacun voit bien dans notre pays, mais ça n'est pas que français, c'est européen, vous avez ça aussi un peu partout dans le monde développé. La solidarité, elle est là, dans les gestes de chacune et de chacun, notamment dans cette crise. Mais on sait que nous avons affaire à une évolution déjà de longue date d'une société qui est plus individualiste. Une classe moyenne qui paye les conséquences des évolutions économiques et qui, de ce fait, est plus réticente à payer l'impôt, s'interroge sur la solidarité parfois assimilée à de l'assistanat, je pense à tort, mais avec des questions réelles qui se posent. Donc tout ça travaille la société. Et notre souhait à la Fédération des acteurs de la solidarité et le mien, c'est de pouvoir contribuer à reconstruire ces réflexes, ces politiques, ces comportements.
Comment alors, Pascal Brice, comment ?
Je crois que c'est d'abord l'affaire de chacune et de chacun d'entre nous. Et c'est notamment le rôle de nos associations. Vous voyez, nos plus de 800 associations partout en France, chaque jour, elles inventent de nouvelles formes de solidarité, par exemple dans les chantiers d'insertion, à travers la production d'alimentation biologique, le recyclage. Mais c'est évidemment l'affaire des pouvoirs publics, à travers les politiques de solidarité. On en a parlé... tout à l'heure. Voilà, c'est tout cela aujourd'hui qui doit être retissé parce que nous sommes dans un moment d'urgence sociale et que c'est plus que jamais indispensable.
Alors Pascal Brice, il y a aussi la question du logement. On n'a jamais vu autant de personnes dans les hébergements d'urgence ?
Oui, près de 200 000. y a encore trop de gens dont les demandes d'hébergement ne sont pas pourvues. Donc il faut amplifier le mouvement. Et puis il faut faire en sorte que toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en hébergement pendant la période hivernale sortent dans de bonnes conditions. Et ce qui est devant nous, c'est d'abord la capacité d'accéder à un logement pérenne et à reprendre le chemin du développement du logement très social. Parce que là, il y a un manque et nous souhaitons que les pouvoirs publics amplifient cet effort.
Alors cette question du manque de logement, Pascal Brisson l'a vu avec cette action lundi soir de l'association Utopia 56 qui a délibérément choisi de monter un camp de fortune, place de la République, pour rendre visible des migrants, des demandeurs d'asile qui étaient à la rue. Et avec l'évacuation par la police qui a choqué jusqu'au ministre de l'Intérieur, là Pascal Brisson, je parle à l'ancien patron de l'OFPRA que vous avez été, qui a eu en charge le sort des demandeurs d'asile. Vous qui disiez l'an passé dans un rapport, je vous cite, qu'on est dans un système qui accueille mal, qui protège mal, qui reconduit mal. Comment on en sort quand on voit ce qui s'est passé lundi ?
On en est toujours là, hélas. Et ce qui s'est passé à la place de la République n'est pas acceptable. C'est le fruit d'ailleurs de ce qui s'était passé quelques jours auparavant à Saint-Denis, où un grand nombre de personnes avaient été mises à l'abri, mais d'autres laissées à la rue dans des conditions déjà violentes. Il faut vraiment sortir de ces logiques qui sont de plus en plus présentes, de dissuasion, de dispersion, qui ne règlent rien, qui porte atteinte à la dignité des personnes, qui alimente le trouble dans l'opinion publique pour basculer sur des politiques volontaristes, qui sont aussi des politiques militaristes, bien sûr, d'intégration. Parce que l'une des questions posées, c'est bien sûr l'intégration de ces personnes et le partage des valeurs républicaines. C'est un enjeu important du moment.
Un dernier mot, Pascal Brice, peut-être une image qui vous a marqué dans cette crise sanitaire, justement, sur ceux que votre fédération prend en charge.
Ce qui m'a marqué, c'est... cette association nantaise, Saint-Benoît-Labre, à laquelle j'appartiens, qui a su, dans cette crise, alors que les bénévoles, souvent âgés, devaient parfois, pas tous, se retirer, parce qu'ils étaient en situation difficile face au risque du virus, qui a su mobiliser des équipes, s'organiser, trouver des solutions... pour continuer à accompagner, à héberger, et notamment, je pense, à ces maraudes qui permettent de faire en sorte que les femmes à la rue, parce que c'est l'un des drames que nous vivons, puissent quitter ces situations extrêmement difficiles. Donc vous voyez, des tensions, des difficultés, mais une capacité à avancer.
Merci beaucoup Pascal Brisson pour ce dernier message. Je rappelle, président de la Fédération des acteurs de solidarité, ô combien nécessaire en ce moment, en ces temps de crise sanitaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Et puis vous le savez, on poursuit cette tranche d'information à 13h en ouvrant les carnets du monde avec Sophie Larmoyer cette semaine. Bonjour Sophie, où est-ce que vous nous emmenez ?
Bonjour Fabienne, on sera notamment au Brésil où la mort d'un homme noir provoque beaucoup de colère. Il a succombé en quelques minutes sous les coups de deux vigiles sous-traitants d'un supermarché Carrefour. Alors on va écouter cette communauté noire victime d'un racisme systémique au Brésil et puis aussi la direction de Carrefour qui est en train d'opérer de grands changements pour ne plus être accusée, comme c'est le cas en ce moment, d'être des assassins.
Bien noté Sophie, à tout de suite.